Radio Kapi. Oh, Kapi.
Une dizaine de femmes enceintes mortes après traitement chez des charlatans dans le Maniema. C'est la conséquence de la grève des infirmiers. Alerte le président de la société civile, Abedi Kazimoto. Il plaide pour des pourparlers entre le gouvernement et les infirmiers pour trouver solution aux revendications de ces derniers. Le Premier ministre Samalou Kondé est à Beni depuis hier après-midi, accompagné d'une forte délégation gouvernementale. Après Bounia, Jean-Michel Samalou Kondé est allé à Beni évaluer l'état de siège et faire le suivi des opérations militaires, a-t-il déclaré. Et puis, l'invité de ce matin, Kaké Sevinalou, coordonnateur du mécanisme national de la CIRGL-RDC, il évoque la question de l'apatridie ainsi que les mécanismes institutionnels pour la prise en charge des apatrides en RDC. C'est après un atelier d'information et de renforcement des capacités organisé récemment à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord cette nouvelle, 25 blessés, 2 fracturés et plusieurs traumatisés. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu vers 1h du matin hier lundi sur la nationale numéro 1 dans son tronçon qui quitte Kinshasa, juste au niveau de la frontière entre les provinces du Kwango et du Kwilu. Il s'agit d'un bus de la société Jérémy Trans en provenance de Mbujimayi pour Kinshasa, transportant des passagers et plusieurs marchandises. Selon le médecin directeur de l'hôpital de Misele qui livre l'information, l'excès de vitesse et la somnolence du chauffeur seraient à la base de l'accident. Docteur Gaylor Matsanga rassure que l'évolution de ces accidentés admis à son hôpital est bonne, mais il plaide pour les moyens financiers en vue de leur bonne prise en charge médicale et leur restauration. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais en titre, dans la province du Maniema, une dizaine de femmes enceintes sont mortes à la suite des traitements administrés par des charlatans qui profitent de la grève des infirmiers. L'alerte est du président de la société civile Force Vive du Maniema sous antenne de Basongé 1 Samba. Dallas Abedi Kazimoto affirme avoir vécu les faits lors d'une tournée qu'il a effectuée dans différentes aires de santé de ce coin du pays. Il recommande au gouvernement d'activer les pourparlers avec les infirmiers et de trouver solution à leurs revendications pour sauver des vies humaines. Abedi Kazimoto Dallas, joint au téléphone depuis Samba par Florence Kizalunga.
La grève des personnels soignants produit des effets très très graves dans la zone de santé rurale de Samba. Avec la petite ronde que je viens d'effectuer dans une semaine à Bushiba et Bungongwe, le constat est amer. À Bushiba, j'ai comptabilisé plus de 8 cas de femmes enceintes qui sont mortes suite au traitement de charlatan. Puis arrivé à Lusangai, plus de 6 femmes toujours enceintes, transportées et amenées à Likasi à 18 km dans la province de Lomami, ont trouvé encore la mort. Il y a de cela des jours depuis que je suis rentré de Bungongwe, là encore c'est catastrophique. Vous connaissez, la zone de santé rurale de Samba est constituée de 12 aires de santé, dont 8 centres de santé, 4 centres de santé de référence, un centre de santé hospitalier privé intégré et un hôpital général de référence. Et arrose 4 chefferies. Imaginez-vous, plus dans 3 aires de santé, nous comptabilisons ces cas. Faites maintenant les calculs de ce qui se passe partout ailleurs. Raison pour laquelle nous, comme société civile, nous implorons vraiment la bienfaisance du gouvernement central de peser de son poids pour que les infirmiers puissent reprendre leurs activités afin de sauver les vies humaines.
Cette information est confirmée par l'administrateur Kingo Mbekitenge Benoît. Il ajoute que dans toutes les structures médicales, il n'y a même pas de service minimum organisé. Nord Kivu, une nouvelle phase de vaccination anti-Covid a été lancée hier dans la division provinciale de la santé antenne de Butembo. D'après Guy Makelele, responsable de cette antenne, cette vaccination ne concerne que ceux qui avaient reçu la première dose du vaccin AstraZeneca. Cela est justifié par le fait que la quantité de doses réceptionnées n'est pas suffisante, dit-il. Florida Kahambu nous en dit plus.
La DPS antenne de Butembo dit avoir réceptionné un lot de 1960 doses seulement, alors que même ceux qui sont attendus pour recevoir leur deuxième dose sont au nombre de 2506 personnes. Ces doses de vaccins arrivent après un mois, alors qu'en principe la deuxième dose se prend 2 semaines après la première vaccination. Guy Makele les rassure que ces retards ne représentent aucun risque sanitaire.
Nous avons reçu 1960 doses. Donc on privilégie d'abord les gens qui avaient reçu la première dose. C'est vrai qu'il y a eu un petit retard. Normalement on dit qu'il faut donner dans les 12 semaines, mais qu'il y ait 14 semaines, que dire qu'il y ait des effets indésirables liés au fait qu'on a été vacciné en retard, il n'y a pas de crainte par rapport à ça.
Le commissaire supérieur Moabaye Kitely Roger, maire de Boutembo, qui s'est fait vacciner aussi à cette occasion, demande à la population de ne pas avoir peur de se faire vacciner.
Je demande à tout un chacun de ne pas avoir peur. Ce n'est qu'un moyen pour que nous puissions lutter contre la maladie, que ceux qui ont peur suivent mon exemple pour que nous puissions lutter ensemble contre la COVID-19.
Le responsable de la DPS antenne locale, Guy Makelele, indique que d'autres doses de vaccins sont attendues d'ici le mois de septembre en faveur de ceux qui n'ont pas encore été vaccinés. Boutembo, Florida Kaambu, Radio Kapi.
Au sud Kivu voisin, un deuxième lot de 2500 doses de vaccins AstraZeneca est arrivé dans la province depuis le week-end dernier. Comme partout en RDC, la priorité est accordée aux personnes ayant reçu la première dose. Selon le chargé de communication de la division provinciale de la santé, ce nombre réduit est justifié du fait que plusieurs doses du premier lot ont été gaspillées. Un autre lot pourrait arriver suivant l'évolution et la demande de la vaccination, indique le docteur Claude Baïziré. Il a été joint par Rachel.
La province venait de réceptionner des doses de vaccin AstraZeneca contre COVID-19, 2500 doses, parce que on n'a pas voulu encore envoyer beaucoup de doses du fait que les premières doses quand on les avait envoyées, il y avait beaucoup de personnes qui avaient hésité de se faire vacciner. Et comme il est prévu de donner deux doses pour avoir une bonne immunité, on s'est dit dans un premier temps, on donne l'opportunité aux personnes qui s'étaient fait vacciner à la première dose d'en avoir deux, parce que pour une bonne immunité, il faut se faire vacciner au moins deux fois avec le vaccin AstraZeneca. Mais cela n'empêche, si on trouve que vraiment il y a une demande de vaccin AstraZeneca, la province n'hésitera pas encore de passer notre commande pour que les autres personnes puissent se faire vacciner pour la première fois. Pour ne pas perdre encore beaucoup de vaccins et donner la chance vraiment à toutes ces personnes de se faire vacciner, on ne va plus ouvrir les flacons directement à l'arrivée d'un candidat de vaccin. Maintenant, vous vous présentez, on vous enregistre, on attend. Dès qu'on a au moins 8 personnes, on contacte les vaccinés de la première dose et là on peut ouvrir maintenant les flacons.
Pendant ce temps, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ACR, sous délégation de Kalemie, a remis le week-end dernier des kits de lutte contre le coronavirus à quelques structures médicales de Lubumbashi et de Kipushi, témoin de l'événement Jean Gandou.
La première structure médicale à recevoir ce kit est l'hôpital général de référence de la commune de Kenya à Lubumbashi. Il s'agit des dispositifs de lavage de mains, des tests rapides de la COVID-19, des thermoflashes, de masques, de savons liquides, de kits de protection individuelle et autres. Pour le médecin chef de staff de cet hôpital, ce geste du ACR tombe à point nommé. Dr Bob Boulengue.
Le ministère de la Santé, via la division provinciale de santé, a ciblé des AGR qui doivent prendre gratuitement les malades de COVID. Alors lorsque vous nous amenez ça, ça c'est très important.
Qu'est-ce qui justifie donc le choix de cet hôpital pour ce geste humanitaire? Songa Moses, représentant du ACR à cette cérémonie.
C'est la structure qui prend en charge nos bénéficiaires, réfugiés et demandeurs d'asile, spécialement ici à Lubumbashi. C'est dans ce cadre où l'UHR a choisi de renforcer la prévention au COVID-19 dans cette structure, afin que cet hôpital mette en place des gestes barrières pour lutter contre la COVID-19.
Ce même kit a été aussi remis au centre médical pacifique de Kipushi, situé à 30 km de Lubumbashi. Un acte salué aussi par le docteur Patient Gousso, médecin directeur de ce centre.
Nous sommes très contents parce que cette fois-ci, ça va nous aider à bien gérer tout l'effectif des malades et du personnel dans le cadre de la lutte contre la COVID.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu. Durcissement de la grève à l'université de Goma Unigom. Nous sommes à la deuxième semaine déclenchée par les agents scientifiques comme administratifs. Les grévistes réclament leurs arriérés de primes impayés depuis 7 mois. Ils refusent que la dite prime soit ponctionnée des milliers de francs congolais et accusent le recteur de l'Unigom de fermer la porte au dialogue pour régler le problème. Les étudiants, quant à eux, appellent à l'implication du ministre des tutelles. Plus de détails avec Denise Lukeso.
Déclenché depuis le 12 août dernier, les agents grévistes de l'Unigom, toutes les catégories confondues, accusent les recteurs et professeurs Munyanga d'incompétence et d'opacité dans la gestion de l'université. Face au temps qui presse, avant la prochaine clôture de l'année universitaire en cours, les étudiants s'invitent à la crise et demandent à leur tour l'intervention du ministère des tutelles. C'est comme le confirme ici le porte-parole du comité étudiantin, Patrick Iragirenda.
En tant qu'étudiants, nous sommes acquittés de nos obligations, comme on a demandé les deux parties d'avoir un consensus, chose qui n'a pas été faite jusque-là. Nous demandons au ministre Delessi de venir jouer l'intermédiaire parce que entre ces deux parties, il n'y a pas consensus. Parce que d'ici deux mois, nous devons terminer l'année académique.
Contactés, les recteurs confirment les négociations en cours entre les comités de gestion et les grévistes pour trouver une solution. Pendant ce temps, le professeur Munyanga appelle les étudiants et les enseignants à reprendre les cours sous une haute sécurité de la police. Goma, Denis Luké sur Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, le Premier ministre Samalou Kondé séjourne depuis hier après-midi à Beni. Il est accompagné d'une forte délégation composée de certains membres de son gouvernement. Jean-Michel Samalou Kondé venait de Bunia après un séjour de 48 heures en Ituri. À sa descente d'avion, le Premier ministre a déclaré qu'il allait évaluer l'état de siège, mais aussi faire le suivi des opérations militaires. Le chef du gouvernement congolais, dans ses propos recueillis par André Kitenge.
Tout d'abord, c'est une première visite pour moi ici à Beni. Je viens à la suite de la visite de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous venons dans ce lieu où, comme vous le savez, nous sommes en état de siège et où le besoin humanitaire est aussi très ressenti. Et donc, nous allons faire un état des lieux avec l'autorité ici locale, mais nous allons aussi profiter pour rencontrer toutes les structures qui sont aux côtés de la population, de sorte que vraiment nous puissions avoir le plus d'informations et que nous puissions donner aussi l'état des lieux que nous avons à notre niveau et nous rassurer l'opération que nous menons ici. Sinon, c'est pour moi une très grande joie pour ce sol de Beni ce jour.
Aussitôt arrivé à Beni, Jean-Michel Samalou Kondé s'est rendu directement à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Notez que l'agenda du Premier ministre prévoit plusieurs rencontres sur place à Beni, notamment avec le gouverneur du Nord Kivu, les autorités locales, les forces vives de la région et aussi les élus locaux. En Ituri, plus de 450 personnes ont été tuées et plusieurs maisons incendiées lors des exactions meurtrières depuis le début de cette année, une œuvre des différents groupes armés dont l'ADF qui opère dans le sud du territoire d'Irumu. La société civile qui dresse ce bilan attire l'attention du gouvernement Samalou Kondé sur la crise sécuritaire qui endeuille cette entité coutumière. Le président de la société civile l'a fait savoir hier avant le départ du Premier ministre pour Beni. Le récit de Ezekiel Mouzalia.
Dans son rapport, la société civile du territoire d'Irumu s'est dit inquiète de la situation sécuritaire volatile dans les chefferies de Banyali Tchabi, Boga et Walesevonkutu dans les territoires d'Irumu. Ici, des rebelles des ADF, par exemple, qui sillonnent dans la zone, braquent, extorquent et tuent des civils dans plusieurs villages de la chefferie de Walesevonkutu. Cette structure citoyenne indique qu'environ 300 personnes ont été tuées par ces groupes rebelles. Même décor également dans les chefferies d'Andissoma, Mobala, Babilebe et Babwa Bokoe, où d'autres mouvements insurrectionnels inquiètent la population. Ces acteurs sociaux disent avoir recensé environ 150 autres civils, parmi lesquels des femmes, qui ont été massacrées par des différentes milices. Son président Guili Gotabo attire l'attention du Premier ministre sur la crise sécuritaire que connaît le territoire d'Irumu. Pour sa part, l'armée affirme avoir renforcé ses troupes dans la zone pour restaurer l'ordre dans ces régions. Signalons cependant que ce bilan n'est pas encore confirmé par les autorités militaires des FARDC en province. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Désignation des membres de la CENI. 71 organisations de la société civile appellent l'Assemblée nationale et les députés nationaux au sens élevé de patriotisme de s'imposer en assumant leurs responsabilités historiques, cela en tenant compte de la loi organique de la CENI et de la charte des confessions religieuses en vue d'épargner au pays ce qu'elle qualifie de complot. Ces ONG l'ont déclaré hier dans un communiqué à l'issue de la matinée de réflexion tenue à Kinshasa sur la dite problématique. Les forces sociales de la République s'est disent très préoccupés par le retard pris par les parties prenantes dans le processus de la désignation des membres de la CENI. Ces ONG soulignent également que si d'ici fin août 2021, aucune solution n'est apportée à cette question, elles prendront leurs responsabilités en recourant à toutes les voies de droit et légales pour parvenir à cette fin. Kasaï Oriental, aucun enfant ne peut sortir de la ville de Mbujimayi sans une autorisation préalable de la mairie. Cette décision a été annoncée la semaine dernière. Luidor Ntumba, maire de Mbujimayi, affirme qu'il s'agit d'un rappel d'une disposition prise au niveau national pour mettre fin à la traite des enfants congolais, une pratique qui n'épargne pas les enfants de Mbujimayi et ceux de toute la province du Kasaï Oriental. Le maire de Mbujimayi indique que toute personne qui désire voyager avec un enfant doit être munie des documents attestant la parenté avec l'enfant qui voyage.
Actualité Afrique Monde.
Les États-Unis ont annoncé hier des sanctions contre un haut responsable militaire érythréen, le général Philippos. Il est accusé par Washington d'exactions attribuées aux forces érythréennes dans le conflit au Tigré. Ces dernières sont intervenues dès le début du conflit dans cette province éthiopienne pour soutenir Addis Abeba contre les rebelles du TPLF. Dans un communiqué, le Trésor américain affirme que l'armée érythréenne est accusée de massacres, des pillages et d'agressions sexuelles. Des soldats ont violer, torturer et exécuter des civils.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le professeur Kake Sevinalou, coordonnateur du mécanisme national de la CIRGL-RDC. Cette structure, en partenariat avec le comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR, a organisé vendredi dernier à Kinshasa un atelier d'information et de renforcement des capacités sur la mise en œuvre des engagements pris par la RDC pour l'éradication de l'apatridie. Notre interlocuteur évoque la question de l'apatridie ainsi que les mécanismes institutionnels pour la prise en charge des apatrides en RDC. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Kake Sevinalou, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'assister à un atelier sur l'information et le renforcement des capacités sur l'apatridie. D'emblée, je voudrais vous demander ce que c'est l'apatridie.
L'apatridie, c'est l'ensemble des personnes qui se retrouvent dans un pays où ils ne sont pas originaires, soit à la guerre, fuit la guerre, soit les parents sont arrivés là-bas mais qui n'étaient pas de la nationalité de ce pays. Ils se retrouvent dans un pays qui n'est pas le sien et ils vivent là-bas sans identité, sans nationalité, sans terre. C'est un apatride parce qu'il n'a pas une référence, il n'a pas d'identité. Personne ne peut témoigner de lui que je l'ai vu naître. Mais il est venu là-bas parce que la guerre, la fusion, ou bien une catastrophe naturelle, les gens fouillent. D'arriver là-bas, ils n'ont plus la capacité de rentrer. Il devient alors, après quelques années, apatride.
Il est ressorti dans l'atelier à ce jour que la RDC ne connaît pas le nombre des cas d'apatrides dans son territoire. Et cela relève aussi d'un problème de sécurité nationale. D'autant plus que nous avons 9 voisins tout autour de nous. Que faire pour relever ces défis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avoir le nombre de cas d'apatrides nécessaires ici en République démocratique du Congo?
Vous savez, nous avons 3 catégories de gens qui ont quitté leur territoire pour aller ailleurs. Vous avez les réfugiés. Les réfugiés ont une identité, c'est connu. Un réfugié, ça veut dire qu'il a fui son pays pour des raisons politiques, économiques ou sociales. Il est allé s'installer dans un autre pays. Vous avez ce qu'on appelle les déplacés internes. C'est quelqu'un qui quitte son territoire, il va dans un autre territoire. Mais il est dans le même pays. Mais ça peut arriver qu'il quitte son territoire pour aller dans un autre pays. Mais à la suite d'une guerre, à la suite d'une catastrophe naturelle, son problème c'est qu'il va rentrer. On appelle ça déplacé. Mais il y a des apatrides. Un réfugié est reconnu qu'il est sujet de tel pays. Un déplacé, on sait qu'il s'est déplacé de tel coin à un autre. Mais un apatride, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas l'origine. Il a traversé parfois 2 ou 3 pays qui se retrouvent, comme on avait à un moment donné ici, des Éthiopiens ou des Somaliens. On voit des enfants somaliens circuler ici. Vous ne savez pas, ils viennent d'où? Ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont aucune référence et il est apatride.
Comment arriver à les identifier alors?
Voilà, c'est là que l'autorité politique ou administrative peut prendre son courage, les appeler ou aller vers eux, là où ils logent, pour les identifier d'abord. Vous venez d'où? Vous vous appelez comment? Qu'est-ce qui vous a fait venir? Ainsi de suite. Deuxièmement, il faut savoir leur désir. Pourquoi se retrouvent-ils là-bas? Ils veulent quoi? Ils peuvent vous dire non, moi chez nous ne nous intéresse plus. Ou moi, je cherche autre chose. Ou moi, je préfère m'installer ici. Mais quand il a quitté son pays pour venir, il est venu main vide. Il n'a aucun document de référence. Alors, on se retrouve avec les catégories des gens comme ça, qui à un moment donné, vous ne savez pas les identifier. Il est venu ici, il s'installe, et tout de suite à la guerre. À un moment donné, c'est vous qui devez l'approcher pour lui dire, bon, maintenant, nous faisons comment avec vous? Votre nom, c'est tel, vous venez de tel pays. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelle identité? L'identité des réfugiés? Vous serez quel type de réfugié? Ou l'identité d'un déplacé? Parce qu'un déplacé a toujours l'intention de rentrer chez lui. Mais si vous êtes ici comme un apatride, on doit aussi vous identifier.
On sait que la RDC a souscrit aux 11 engagements du sommet de Brazzaville.
Oui,
le sommet des chefs d'État. Oui, parmi ces engagements, il y a l'enregistrement de l'état civil, il y a aussi la délivrance des documents d'identité.
Voilà.
Mais ici aussi, comme vous l'avez dit, il n'y a aucun effort qui est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'arriver à résoudre ce problème?
Nous devons d'abord trouver quelle est l'instance qui peut s'occuper des apatrides. Pour les réfugiés, nous savons que c'est le ministère de l'Intérieur. Pour les déplacés internes, on sait que c'est l'autorité politico-administrative, soit de localité, soit de collectivité, soit de groupement, qui identifie. Mais pour les apatrides, quelle est l'instance qui s'occupe d'eux?
Mais l'État congolais doit savoir comment il doit faire.
Mais nous devons savoir c'est quel ministère qui doit s'occuper des apatrides. Le ministère de l'Intérieur, comme il fait pour les réfugiés, ou pas? Nous n'avons qu'une législation à ce sujet-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, après les avoir identifiés, quand nous trouvons que c'est tel ministère qui doit s'en occuper, c'est ce ministère-là qui s'occupe maintenant de leur prise en charge.
Professeur Takeshi Vinalo, je vous remercie.
Merci beaucoup, mon ami.
Notre invité, le coordonnateur du mécanisme national de la CIRGL RDC, était avec Jean-Pierre Elali Koko. C'est la fin de ce journal, coordonné et supervisé par Alain Rungmouchinj. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net.